Savoie, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manila qui à la présentation de cette édition du mercredi 29 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Darfour, région de l'ouest du Soudan, un groupe armé pille près de 2000 tonnes d'aide alimentaire, indique l'OPAM. Le Niger expulse 8 Rwandais impliqués dans le génocide de 1994. Harry Reid, ancien chef démocrate du Sénat américain, est mort hier à 82 ans. Une pluie d'hommages du côté démocrate a rapidement suivi l'annonce de son décès. Flambée de la pandémie de Covid-19 avec des records de contamination dans le monde, l'OMS met en garde contre un risque très élevé lié au variant Omicron. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Un groupe armé a pillé près de 2000 tonnes d'aide du programme alimentaire mondial au Darfour, région de l'ouest et du Soudan, ravagé par la violence. Les précisions avec Jacques Aristide.
De nombreux tirs ont été entendus hier soir à Al-Fasher, chef-lieu du Darfour Nord, d'après les habitants. Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, évaluait aujourd'hui ce qui a été volé dans les hangars qui abritaient des tonnes de produits alimentaires. Une personne sur trois au Soudan a besoin d'aide humanitaire, indique Kardiata Londai, numéro 2 de la mission de l'ONU dans le pays. Pour elle, l'assistance humanitaire ne devrait jamais être une cible. Elle appelle Khartoum à augmenter les efforts pour protéger le travail humanitaire. Après l'attaque, un couvre-feu nocturne a été imposé à Al-Fasher, rapporte Shouna, l'agence de presse du gouvernement. La semaine dernière, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà condamné des pillages et des violences près d'Al-Fasher. Le Darfour, région régulièrement secouée par des heurts, notamment provoquées par des disputes territoriale où les difficultés d'accès à l'eau a connu une longue guerre qui a fait depuis 2003 au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Pour ces exactions, la CPI, la Cour pénale internationale, veut juger Omar El-Béchir, le dictateur chassé en 2019 pour génocide et crimes contre l'humanité. Le groupe armé arabe Janjaweed est également accusé de nettoyage ethnique et de viol.
Le Bénin va renforcer son dispositif militaire pour tenter de mettre fin aux incursions de djihadistes venus du Niger et du Burkina Faso voisin, a annoncé mercredi le président Patrice Talon lors d'un message sur l'état de la nation devant les députés à Porto Novo. Depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste en raison des développements observés dans des pays limitrophes est forte, a-t-il déclaré. Une coalition d'organisations de la société civile et d'associations de la Guinée propose une durée de 24 mois pour une transition réussie. Depuis le putsch du 5 septembre qui a renversé le président Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya s'est fait investir président de transition et un gouvernement a été formé avec un civil à sa tête. Le colonel Doumbouya a promis de rendre le pouvoir au civil après des élections, mais refuse de se laisser dicter un délai. Il dit que celui-ci sera fixé par un conseil national tenant lieu d'organes législatifs en cours de constitution. Des défenseurs des droits de l'homme au Sénégal appellent à la fin de la discrimination fondée sur les castes à la suite du refus des populations dans l'ouest du pays de laisser enterrer dans leur village une griotte pour ne pas attirer le malheur. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Décédée le 25 décembre, la femme qui était membre de la caste des griots a été finalement inhumée mardi dans un village voisin après plusieurs jours de tension. Plusieurs organisations des droits de l'homme condamnent fermement cet acte illégal du chef de village de Poudagné et appellent les autorités étatiques compétentes à trouver sans délai une solution définitive à cette situation dans un communiqué publié mardi soir. Les griots sont considérés en Afrique de l'Ouest comme les dépositaires et les gardiens de la tradition. Cependant, une croyance populaire persistant encore de manière isolée au Sénégal les considère comme des êtres impurs. Pour cette raison, ils n'étaient pas dans le passé inhumés, mais leur corps était placé dans le creux des baobabs pour éviter de causer un malheur au village, selon les historiens. Cette pratique est interdite depuis plusieurs années par les autorités sénégalaises.
Le Niger va expulser pour raisons diplomatiques 8 Rwandais ancien dignitaire du régime Hutu responsable du génocide des Tutsis en 1994, récemment accueilli en vertu d'un accord avec l'ONU, selon un arrêté ministériel consulté mercredi. 4 de ces 8 Rwandais ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR, et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal onusien les avait condamnés. Les intéressés seront mis en demeure de quitter le territoire de la République du Niger dans un délai de 7 jours, suivant la date de notification du présent arrêté, selon le texte qui n'indique pas leur futur point de chute. Une bagarre a éclaté mercredi à l'Assemblée nationale du Kenya entre députés qui débattaient d'un projet de loi controversé sur les partis politiques à l'approche de l'élection générale prévue en août prochain. La séance a rapidement été suspendue par le président de la Chambre basse, selon des images diffusées par une télévision kényane. Un ordre de détention préventive a été émis contre la ministre de la Culture libyenne Mabrouka Touki dans le cadre d'une enquête pour corruption et détournement de fonds publics, a annoncé mercredi le parquet dans un communiqué. Le ministère public a ordonné son placement en détention préventive après avoir entendu la ministre pour son rôle présumé dans cette affaire, a fait savoir le procureur général. L'Afrique du Sud rend hommage à Desmond Tutu, l'une des figures majeures de la lutte anti-apartheid, décédé dimanche à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, c'est devant son ancienne maison dans le township de Soweto qu'une cérémonie religieuse a eu lieu pour célébrer le prix Nobel de la paix. D'autres cérémonies sont prévues toute la semaine jusqu'aux obsèques samedi. De Arche, comme il était surnommé, sera enterré à la cathédrale Saint-Georges du Cap. Sa dépouille sera placée en chapelle ardente jeudi et vendredi pour permettre au public de se recueillir. Nous y reviendrons en page magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien chef du Sénat américain Harry Reid, figure emblématique du Parti démocrate et de la scène politique aux États-Unis durant plusieurs décennies, est mort hier à l'âge de 82 ans. L'annonce a été faite mardi par son épouse. Les précisions de John Lyndon.
Il est mort paisiblement cet après-midi, a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que le décès faisait suite à un combat de 4 ans contre un cancer du pancréas. Chef de la majorité au Sénat entre 2007 et 2015, l'élu démocrate aura été un personnage majeur de la fin de la présidence de George W. Bush et d'une grande partie des 2 mandats de Barack Obama, notamment dans le passage de la loi sur la réforme de l'assurance maladie Obamacare. Une pluie d'hommages du côté démocrate a rapidement suivi l'annonce de son décès. Je ne serais pas devenu président si ça n'avait été pour tes encouragements et ton soutien, et je n'aurais jamais obtenu la plupart de ce que j'ai pu accomplir sans ton talent et ta détermination, a écrit Barack Obama. Le président Joe Biden a salué un géant de notre histoire. Bill Clinton a célébré le sens du compromis d'Harry Reid. Pour l'actuel chef du Sénat, le démocrate Chuck Schumer, Harry Reid n'a jamais oublié d'où il venait. Le chef des Républicains au Sénat américain, Mitch McConnell, a rappelé qu'Harry Reid a toujours fait ce qu'il pensait profondément et sincèrement juste pour le Nevada et pour le pays.
Le risque lié aux variants Omicron dans le monde reste très élevé, prévient l'OMS. Le monde a atteint de nouveaux records de contamination. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La France a établi ce mercredi un nouveau record de contamination, 208 000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Record quotidien aussi au Royaume-Uni avec près de 130 000 contaminations en Angleterre et au pays de Galles. Les États-Unis ont enregistré hier une moyenne record de plus de 265 000 nouveaux cas quotidiens, d'après l'université Johns Hopkins. Les autorités sanitaires américaines ont averti que les tests antigéniques de dépistage du COVID-19 sont moins sensibles aux variants Omicron qu'aux précédents variants. Ces tests ont l'avantage de délivrer un résultat en quelques minutes, mais sont plus susceptibles d'indiquer un résultat négatif malgré une infection. l'Afrique du Sud, qui avait annoncé la fin du traçage des cas contacts de personnes testées positives, est revenue sur cette décision. La Suède exige un test Covid négatif pour tous les voyageurs arrivant sur son territoire. La Finlande n'autorise l'entrée qu'aux voyageurs étrangers munis d'un test Covid-19 négatif et d'une preuve de vaccination complète ou une infection passée. En Belgique, le Conseil d'État a suspendu la décision gouvernementale de fermer théâtre et salle de spectacle.
Les États-Unis ont annoncé mercredi la nomination d'une émissaire spéciale pour les femmes afghanes, une priorité affichée de l'administration américaine depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. Irina Amiri, une Américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama, sera l'émissaire spéciale du président Joe Biden pour les droits des femmes et des filles afghanes et les droits humains en Afghanistan, a annoncé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. C'est le monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, retrouvez John Lindon pour la Minute Éco.
Le Fonds de solidarité africain et le secrétariat exécutif de la stratégie nationale des finances inclusives du Niger ont signé mardi à Niamey un accord cadre de coopération d'environ 17,2 millions de dollars. L'information est du site Financial Afrique qui, citant le directeur général du fonds, note que l'objectif de cet accord cadre est de contribuer de manière significative à l'amélioration de la situation du secteur de la microfinance au Niger. Quatre sociétés devraient bientôt obtenir leur licence commerciale et commencer à exercer dans le secteur minier en Tanzanie. C'est ce qu'indique la presse locale, information relayée par Financial Afrique. Le gouvernement tanzanien a exprimé sa confiance dans l'atteinte des 10% de contribution du secteur au produit intérieur brut d'ici 2025. Les dernières données officielles indiquent que la contribution du secteur minier au PIB s'établit à 6,9% contre un taux de 4,3% enregistré en 2014. Apple a annoncé mercredi avoir placé en période d'essai une usine indienne de son principal fournisseur après une vaste intoxication alimentaire et des manifestations pour dénoncer les conditions de vie des ouvriers. L'usine, située dans l'état de Tamil Nadu au sud du pays, emploie plus de 17 000 personnes et fabrique des iPhones pour le marché indien et l'export, ainsi que des accessoires.
Et on enchaîne directement avec votre page sport, Élisée Onkpatine. Bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir tout le monde. La Coupe d'Afrique des Nations qui approche à moins de 2 semaines du coup d'envoi. Certaines sélections rencontrent déjà de difficultés dans leur préparation, notamment le Maroc et le Cap-Vert qui devraient s'affronter en amical programmé pour ce vendredi à Agadir. Le match a été annulé. D'après les infos, les Lions de l'Atlas peinent à rassembler leur effectif. Pour l'heure, il n'y a que 15 joueurs qui ont répondu présents au rassemblement sur les 28 convoqués par le sélectionneur Vahid Halilhodžić. Côté requin bleu, la pandémie sévit déjà. Le défenseur Stopira a été testé positif au coronavirus et en même temps placé à l'isolement. Des cas positifs sont aussi signalés chez le champion d'Afrique en titre. À quelques jours de son match contre la Sierra Leone, l'Algérie a 3 de ses joueurs testés positifs au Covid-19 au sein de son groupe de 28 convoqués. Il s'agit de Youssef Belaïli et des défenseurs Mohamed Amin Tougaï et Youssine Benianda. Tous devront observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rallier le regroupement de la sélection, précise la Fédération algérienne de football. En raison de la possibilité laissée aux clubs européens de conserver leurs internationaux africains jusqu'au 3 janvier, seuls 11 joueurs étaient présents pour le début du regroupement à Doha. Coupe d'Afrique des clubs à présent et les équipes qualifiées pour les phases de groupe des interclubs de la CAF connaissent désormais leur calendrier des matchs de février à avril. Les 2 tirages au sort effectués hier ont notamment permis en Ligue des Champions de réunir une nouvelle fois les Égyptiens d'Al Ahly tenant du titre et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans le groupe A, également composé de 2 clubs soudanais, Al Hilal et El Merriekh. Le groupe B, lui, sera formé de Raja de Casablanca, des Algériens de Sétif, des Sud-Africains Mazulu et des Guinéens du Oroya. Le groupe C, lui, sera très maghrébin avec l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et les Algériens de Belouizdad complétés par les Botswanais de Galassi. Enfin, le groupe D, Wydad de Casablanca, Zamalek du Caire et double présence angolaise avec le Petro Atlético et Sagrada Esperanza.
C'était les sports de Élisée Onkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les Sud-Africains se recueillent jeudi et vendredi devant la dépouille de Monseigneur Desmond Tutu, l'archevêque mort paisiblement dimanche à l'âge de 90 ans. Reposera dans la cathédrale de Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse où ses obsèques auront lieu samedi. Après une incinération privée, ses cendres y seront inhumées. Notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon, a assisté à une cérémonie devant sa maison avec des membres de l'église anglicane ainsi que la maire de Johannesburg. Son reportage.
Le peuple de Soweto est ici pour dire au revoir à notre père, mais surtout pour le remercier pour celui qu'il a été.
Villa Kasi Street, Soweto, la seule rue au monde où ont vécu deux prix Nobel de la paix, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. C'est à ce dernier, décédé dimanche à l'âge de 90 ans, qu'un hommage a été rendu ce mercredi devant la maison dans laquelle il a vécu dans les années 70 et 80 sous l'apartheid. Rotsopego, un père de famille, a tenu à venir saluer sa mémoire accompagné de ses enfants.
I came here because Arch played a tremendous role in my life.
Je suis venu ici parce que l'archevêque a joué un immense rôle dans ma vie. Il m'a appris à respecter les autres personnes. En Afrique du Sud, nous appelons ça Ubuntu, solidarité, être altruiste, aider tout le monde, peu importe sa couleur. Nous sommes tous des enfants de Dieu.
Children at the end of the day.
As we gather to pray.
Prières, discours, des représentants de l'église anglicane ont pris la parole, ainsi que la nouvelle maire de Johannesburg, Mpopalatse.
C'est l'archevêque Tutu qui a initié des mots « nation arc-en-ciel ». Il a présenté l'Afrique du Sud comme un mélange riche de races, de cultures et d'autres diversités. Et c'était son souhait que nous voyions cela comme un cadeau, comme une force, et pas comme une faiblesse. Il nous a montré comment construire des ponts et ne pas les brûler.
Les hommages à Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid, vont se poursuivre jusqu'à ses funérailles qui auront lieu ce samedi dans la ville du Cap. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'année 2021 aura été dominée au Nigeria par la situation d'insécurité que traverse le pays depuis plus d'une décennie. Des enlèvements aux insurrections extrémistes dans presque tous les coins du pays. La crise sécuritaire a dominé l'année 2021. Gilbert Tamba revient sur les événements qui ont marqué 2021 au Nigeria.
Commençons par la campagne de vaccination. Le 5 mars, le pays le plus peuplé d'Afrique donnait le coup d'envoi de sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Certains Nigériens comme Idioma ont accepté de se faire vacciner, mais la majorité rejette encore le vaccin.
Oui, tout le monde cherche à empêcher la propagation du virus. Donc si la vaccination va m'aider à sécuriser mon système immunitaire, pourquoi pas? Parce que cela me rassure que je ne serai pas infecté une fois que je prends le vaccin. Donc c'est bon.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut prendre, parce que si vous regardez les chiffres de l'OMS, vous verrez que les gens qui ont pris le vaccin ont été infectés à nouveau par le même virus. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin, à cause des rumeurs.
L'ampleur de l'insécurité menace le tissu même de la société nigériane. À chaque attaque, des vies humaines sont perdues ou endommagées de façon permanente et la stabilité du pays ainsi que la confiance aux principes démocratiques diminue. Certains lient la récente montée de l'insécurité à la pauvreté à travers le pays. L'analyse de l'expert en sécurité, Kabiru Adamu.
Premièrement, c'est un phénomène international. Visiblement partout dans le monde où vous avez un conflit pareil et la détérioration dans la sécurité comme c'est le cas au Nigeria aujourd'hui, les écoles sont visées. En Afghanistan, au Pakistan et beaucoup d'autres endroits comme le Congo, c'est le cas.
Le djihadisme, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, le banditisme et des enlèvements, l'insurrection séparatiste sont les plus grandes menaces de la sécurité du Nigeria. Autre fait marquant qui a attiré l'attention des Nigériens durant l'année 2021 est la suspension des activités de Twitter dans le pays. Cela fait déjà plus de 6 mois que le gouvernement nigérien a interdit Twitter après que le géant de la technologie a supprimé un message du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint ses règles sur le langage abusif. Une interdiction qui avait suscité beaucoup de réactions. Mais la décision de Twitter de supprimer le message du président Buhari, dans lequel il menaçait de violence contre un mouvement séparatiste, était-elle mal avisée? La réponse de ce blogueur nigérian Omojua Jafet.
Dans le contexte des débats autour de Biafra et de toutes les autres agitations en cours, ce n'était pas le bon moment de faire de telles déclarations avant d'aborder la question du tweet. Mais ce n'était une ingérence dans nos affaires de la part de Twitter. Les Nigériens même avaient critiqué le tweet.
De nombreux Nigériens utilisent Twitter pour des besoins commerciaux, soit pour atteindre les clients, exposer leurs produits ou encore communiquer avec des partenaires. Mais le réseau social est aussi un important outil de contestation sociale au Nigéria. L'année 2021 qui s'achève aussi a été une année de renforcement du lien diplomatique entre le Nigeria et les grandes nations du monde, avec notamment la visite du secrétaire d'État américain au Nigeria, Anthony Blinken, le 18 octobre. Anthony Blinken était venu à Abuja dans le cadre de sa 2e étape de son voyage dans 3 pays africains, notamment le Kenya, le Sénégal et le Nigeria. Les Nigériens attendaient beaucoup de la visite du secrétaire d'État américain. C'était le cas de l'activiste Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
La visite est la bienvenue. Cela démontre l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique, particulièrement les pays dans lesquels il effectue ce déplacement. C'est une visite symbolique.
Dans son discours au siège de la CDAO à Abuja, Anthony Blinken a déploré la situation dans la sous-région ouest-africaine.
De nombreux Africains vivent aujourd'hui partiellement sous l'autorité de gouvernements militaires. Les autorités ont renversé les gouvernements civils à 4 reprises cette année. C'est le nombre de coups d'État le plus élevé en 4 décennies. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles concernant la démocratie en Afrique. Au Niger, nous avions assisté à un transfert pacifique du pouvoir. En Zambie, l'opposition a remporté l'élection, quelque chose que beaucoup ne croyaient pas être possible.
Les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la nouvelle année, espérant avoir un changement de la situation sécuritaire du pays. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
La société de covoiturage Uber s'est associée au groupe de véhicules électriques suédo-kényan Opibus pour mettre en circulation 3000 motos électriques au Kenya et dans la région l'an prochain. Cette initiative est susceptible de réduire considérablement la pollution de l'air car les mototaxis emploient des millions d'Africains à travers le continent. De Nairobi, le reportage de Juma Majanga. Le récit est signé Jacques Aristide.
Dans les rues de la capitale kényane, son engin n'émet pas de bruit de moteur ni de fumée noirâtre. Josephat Moutisso transporte un passager sur sa moto électrique. Il fait partie des premiers chauffeurs de mototaxi de Nairobi à remplacer les 2 roues à essence par l'électrique. Changement encouragé par le partenariat entre Uber et Opibus.
C'est très efficace. Cette moto est même beaucoup plus facile à conduire que l'autre.
Vous voyez, vous n'avez pas tant de commandes. Vous avez juste l'accélérateur, pas d'embrayage. La seule chose à faire est de vous concentrer sur le frein avant et le frein arrière, ce qui vous permet d'avoir encore plus de contrôle sur la moto. Et c'est assez léger, ça ne vibre pas. Même les clients préfèrent celle-ci.
Les mototaxis, également appelés Boda Boda, sont le moyen de transport de plus en plus commun dans les villes africaines. Le PNU, comprenait le programme des Nations Unies pour l'environnement, a donné le coup d'envoi en mars dernier au premier projet de motos électriques au Kenya, ouvrant ainsi la voie à l'option électrique en Afrique, une transition accélérée par le partenariat Uber-Opibus. Alex Pitkin est le directeur technique d'Opibus.
Nous sommes ravis d'exposer autant de personnes que possible à la nouvelle technologie que nous avons créée afin qu'ils sachent que c'est une option. Uber offre évidemment beaucoup de services Boda Boda, c'est notre client cible. Souvent, les conducteurs ne savent pas à quel point les motos électriques peuvent être bénéfiques en termes d'économie d'argent, de sécurité, d'économie de carburant, d'entretien. Vous savez, ce genre de choses. Et la longévité du véhicule, ils ne le savent pas non plus.
Les véhicules électriques gagnent du terrain aux quatre coins du globe pour lutter contre la pollution et protéger l'environnement. Lucie Mugala est ingénieure à Opibus.
Cibler l'Afrique et les pays africains fait partie de ce mouvement. Et à Opibus, c'est ce que nous faisons. Nous voulons avancer tous ensemble. Nous voulons diriger tous vers une énergie plus verte, une économie plus verte. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous rassemblons tous et que si nous nous responsabilisons tous et que si nous renforçons les capacités localement.
D'après des experts, la transition planétaire vers le transport électrique est vitale et de conclure que des conducteurs comme Joseph Atmoutsisso en tireront profit.
Le président du Malawi a annoncé un plan visant à aider l'économie du pays à se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19. Ce plan, qui comprend des réductions des dépenses gouvernementales, fait suite aux protestations nationales contre la cherté de la vie au Malawi, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. À Blantyre, Lamek Massina s'est entretenu avec des analystes. Dilidiko raconte.
Le plan de relance économique du président Lazarus Chakwera a été annoncé deux jours après les critiques de son prédécesseur, Peter Mutharika, qui accuse l'administration Chakwera d'avoir ruiné l'économie du pays. Ce plan fait également suite à une série de manifestations nationales contre la cherté de la vie, aggravée par l'inflation qui a atteint 11%. Dans son discours à la Nation mardi soir, Chakwera a reconnu qu'il existe des problèmes économiques auxquels le pays est confronté.
Our economy is bleeding from four wounds at once.
Notre économie souffre de quatre maux. Le premier, une blessure à long terme est que notre économie a des limites structurelles. Il s'agit d'une économie basée sur l'agriculture avec une base de production restreinte.
Chakwera a expliqué que tout plan doit aider à restructurer l'économie en stimulant des secteurs comme l'exploitation minière, le développement des infrastructures et la production industrielle. Il a ajouté que la principale cause du ralentissement économique au Malawi est le COVID-19.
The third long-term wound our economy is bleeding from is the COVID-19 pandemic.
La troisième pathologie dont notre économie souffre est la pandémie de COVID-19, qui en est actuellement à sa quatrième vague. En plus d'infecter des pans entiers de la population, elle déchire le tissu de notre développement économique.
Depuis le début de la pandémie l'année dernière, le Malawi a enregistré plus de 60 000 cas et plus de 2 300 décès. À deux reprises, le gouvernement a déclaré une catastrophe nationale, accompagnée de plusieurs mesures restrictives. Chakwera a déclaré que bien que les restrictions aient sauvé des vies, elles ont inévitablement causé des dommages aux moyens de subsistance.
Le plan socio-économique que j'annonce aujourd'hui comprend des mesures visant à intensifier les efforts de vaccination de la population. Jusqu'à présent, seulement 500 000 de personnes sont complètement vaccinées, ce qui représente moins de 5% des 11 millions de personnes ciblées pour atteindre l'immunité collective.
Dans le cadre de l'application de ce plan, Chakwera a ordonné aux représentants du gouvernement de suivre son exemple en réduisant les dépenses. Malgré la promesse du gouvernement de moderniser et d'industrialiser l'économie, près de 80% des Malawites sont employés dans l'agriculture, selon un récent rapport de la Banque mondiale.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot et José Le Morissin. Eric Manrakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24. Restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.